Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blain. Je reçois aujourd'hui René Sève. Vous le connaissez, chers auditeurs, il a en effet, il y a un mois, évoqué les grandes figures de l'humanisme dans la tradition occidentale. Quelques mots sur son parcours, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie et docteur d'état en droit, René Sève mène d'abord une carrière universitaire en France et à l'étranger jusqu'en 1990. Directeur de recherche au CNRS, il occupe différents postes en cabinet ministériel dans le domaine des affaires européennes et internationales. Il devient alors directeur de cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur. En 2007, il est nommé directeur général du Centre d'analyse stratégique. Il y a un mois, il a évoqué pour nous les grandes lignes de l'humanisme dans la tradition occidentale. Nous avions pu noter les différentes étapes, Antiquité, Renaissance. Aujourd'hui, nous en arrivons au, je dirais, modèle chrétien. René Sève, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, ce modèle chrétien, qu'en est-il ?
Eh bien, je crois qu'on peut le considérer comme, dans notre tradition occidentale, absolument fondamental, car il va expliquer, y compris le monde laïcisé dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et il y a quand même, moyennant une rupture que nous expliquerons par la suite, une vraie continuité entre la révélation chrétienne et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'état de droit, la croyance fondée dans les droits de l'homme. Même si elle se situe dans un monde laïque, il y a une racine, une essence chrétienne, historiquement, à mon avis, démontrable, quand on examine effectivement assez attentivement la rupture, dont nous allons parler aujourd'hui, entre le modèle grec et le modèle chrétien.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les différences entre le modèle chrétien et le modèle grec, puisque
exactement.
Ce modèle grec, nous l'avions vu dans une
Alors,
émission précédente.
Il faut se rappeler que le modèle grec, on va dire que c'est le modèle platonicien, et on pourrait en faire une adaptation chez Aristote, divise à la fois l'individu humain et les classes sociales en trois parties. Il y a celle du désir et de l'économie, il y a celle du courage et de l'honneur, et il y a celle de la raison qui nous fait accéder à la science et à la vision en Dieu. Donc il y a trois parties. Ce qui va arriver avec le christianisme, c'est que cette troisième partie, la raison qui nous permet d'accéder à la vie divine, une vie contemplative, une vie de connaissance, elle va se trouver dévalorisée en quelque sorte, parce que la conception de la divinité va être considérée comme plus exigeante, plus conforme à la nature et à l'essence profonde de Dieu, mais en même temps, cette conception de la divinité marque une séparation entre les capacités humaines, purement humaines de la nature, même développées par la philosophie, et la réalité ontologique de l'homme qui a besoin, pour accéder à Dieu, de la grâce.
Voilà.
Et c'est ça,
c'est
la,
ça
grosse
la grande différence.
C'est la grosse différence. Et en fait, on peut dire aujourd'hui, on vit encore sur cette question entre, finalement, une sorte de transcendance de chaque individu et, d'autre part, une raison qui aurait plutôt un aspect plus élitaire. Tandis que la transcendance accordée à chaque individu fait que tous les individus sont égaux les uns aux autres, indépendamment de la capacité de leur raison, ce qui n'est pas du tout ce que penserait un Platon ou un Aristote. Et là, c'est vraiment un sujet assez fondamental.
Ce qu'il faut oui, parce comprendre... qu'il faut quand même penser qu'il y a eu le péché originel aussi.
Ah oui, mais là, je pense qu'un passage de la Somme théologique montrera qu'il n'y a pas de lien entre péché originel et impossibilité de l'homme, ou de la femme, de l'individu humain, à atteindre la véritable divinité. Car, je précède un peu ce que j'allais dire, mais c'est toujours... important, parce que votre question est très très pertinente, il faut décorréler l'incapacité de l'individu à accéder à la vie divine, à la vision de Dieu, une sorte de osmose avec la personne divine, et le péché originel. En effet, saint Thomas d'Aquin, dans la Prima Secundae, question 109 de mémoire, montre très bien qu'il y a deux états de nature. Il y a l'état de nature après le péché, qui entraîne comme conséquence que l'individu ne peut plus contrôler ses désirs, qu'il est plus violent, qu'il est soumis aux passions. Et là, c'est la conséquence même du péché, c'est-à-dire qu'on perd le contrôle un peu de soi-même, et quelque part, la raison ne peut plus contrôler les corps, même contre l'intérêt même du corps. Oui. C'est la passion destructrice, on se détruit soi-même en détruisant autrui. Mais dans l'état de nature intègre, ce qui est l'objet de la seconde question 109, dans l'état de nature intègre, saint Thomas d'Aquin dit bien que cette fois, l'individu, l'homme et la femme, c'était que deux, avaient le contrôle de leurs passions et vivaient dans un monde d'osmose avec la nature, d'ataraxie, enfin si on avait utilisé le terme grec, qui serait un peu décalé, mais mettons, de bonheur. Mais avaient quand même besoin de la grâce pour accéder à quelque chose qui dépasserait leur capacité naturelle. Donc dans l'état de nature intègre, avant le péché, vous ne pouvez pas accéder à Dieu sans avoir le besoin de la grâce qui vous élève à lui. Et ça, c'est un point très important, parce que si on disait le contraire, ça signifie que Adam et Ève, avant le péché, accéderaient à la vie divine, ils seraient d'une certaine manière divinisés ou divinisables, et à ce moment-là, ils n'auraient pas ontologiquement besoin de l'incarnation et du Christ, qui ne vient pas seulement sauver les hommes des conséquences du péché, mais aussi leur apporter, leur confirmer le besoin de la grâce pour accéder à la vraie vie divine. Donc, dans l'état de nature intègre, thèse de saint Thomas, qui est quand même une autorité qu'on peut considérer comme toujours aujourd'hui valable, même si après il y a énormément de théologies qu'il faudrait examiner de plus près, dans l'état de nature intègre, on a besoin de la grâce. L'état de nature intègre, c'est pas l'individu platonicien avant le péché, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est un état purement naturel, de nature intègre. Mais dans nature intègre, il y a nature. Et donc, si on veut aller à la surnature, c'est ce qu'on appelle parfois le désir naturel du surnaturel. Si on veut aller à la surnature, eh bien, à ce moment-là, on a besoin de la grâce. Même Adam et Ève, dans le paradis originel.
Oui.
Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Parce que autrement, on serait dans une sorte de platonisme, avec un petit inconvénient, c'est qu'il y a eu un péché, donc il faut rattraper le péché, puis on reviendrait à une vision de l'individu qui serait celle d'un platonicien. Et la raison, à ce moment-là, permettrait d'accéder à Dieu. Or, ce que la théologie chrétienne veut, c'est de dire qu'il n'y a, on peut le dire comme ça, il n'y a qu'un seul homme ou être individu divin, c'est le Christ. Seul le Christ est à la fois individu et Dieu.
Oui. Il est homme et...
Donc, l'idée qu'avaient tous les platoniciens et les néoplatoniciens et Plotin, par la sagesse, par la philosophie, par un certain nombre de disciplines, par le travail commun, de la réflexion, par la science, de devenir semblable à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'homoiosis, la ressemblance avec Dieu, la divinisation, par la philosophie, pour le christianisme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Seul le Christ est l'homme divin. Et la divinisation, elle ne passe que par le Christ. Seul le Christ est à la fois individu et Dieu. Alors que, pour un grec, la philosophie permet à ceux qui font ce parcours, ces efforts, de devenir divin. Ça, c'est vraiment le vrai sujet et fondamental. La rupture est là. La rupture est là. Et c'est vrai que c'est une tentation dans l'histoire de la tradition chrétienne de faire de Jésus-Christ, non pas Dieu, mais simplement l'être le plus parfait de la création.
Il est à l'image de
Dieu. Un super sage. Mais il n'est pas à l'image de Dieu, il est Dieu.
Oui, il est Dieu.
Donc il faut assumer le trinitarisme vraiment à fond pour comprendre la séparation avec la vision qu'avaient les platoniciens. Il y a chez Platon et chez Plotin surtout, hein, chez les néoplatoniciens, tout ça est très étudié, hein, il y a une vaste littérature théologique là-dessus. Il y a beaucoup de thèmes qui sont très semblables, même presque, alors certains diraient trompeurs, mais ce serait très méchant de dire ça, avec les thèmes chrétiens, hein, la Trinité, la vision divine, la cité de Dieu, la chute de l'âme. Tous ces thèmes-là sont des thèmes de la sagesse grecque, platonicienne et néoplatonicienne. Je vais vous citer quand même un passage des Énéades de Plotin. Hein. Plotin, c'est vraiment un auteur sur lequel beaucoup de chrétiens ont écrit pour montrer que c'était une sorte de préscience, mais incomplète et quelque part trompeuse. Hein. Donc les théologiens sont partagés en disant « Bravo Plotin hein, », c'était presque une anticipation de la révélation. Et d'autres ont dit, mais c'est extrêmement trompeur parce que ça nous fait oublier que seule la révélation est importante. Donc l'accueil du platonisme hein, ou du néoplatonisme par la théologie a été contrasté. C'est tellement près que ça peut être vu positivement ou c'est tellement près que ça peut être vu négativement parce que ça peut égarer.
Bien sûr.
Et je vais quand même citer le début des Énéades de Plotin parce que c'est quand même une belle phrase et en même temps ça fait vraiment correspondre tout à fait à ce qu'on évoquait là sur l'humanisme proprement chrétien. Je cite Plotin. « Puisque le mal règne ici-bas et domine inévitablement en ce monde, et puisque l'âme veut fuir le mal, il faut fuir l'ici-bas. Quel en est le moyen ? C'est, dit Platon, de nous rendre semblables à Dieu. Nous y réussirons en nous formant à la justice, à la sainteté, à la sagesse et en général à la vertu. » Et là, c'est vraiment l'idéal grec, par le travail de la philosophie, de se rendre semblable à Dieu pour fuir le monde du mal. Mais naturellement, c'est pour le message chrétien, pour la révélation, une erreur, puisque seul Dieu peut apporter le salut par l'incarnation. Et donc, la différence qui se manifeste assez concrètement dans le dogme, si j'ose dire, du catéchisme, par rapport à ce qu'on vient de dire, la Trinité, la perfection de Dieu, le besoin de fuir le mal, hein, pour reprendre les termes de Plotin, c'est dans des choses qu'on ne trouvera pas dans le néoplatonisme, c'est des thèmes qui sont liés à la théologie chrétienne proprement dite, à savoir la création du monde, hein, parce que pour un platonicien, le monde est éternel, la naissance des âmes, parce que pour un néoplatonicien, il y a préexistence des âmes, mais il n'y a pas vraiment naissance des âmes, et la résurrection des corps, qui n'existe pas dans le néoplatonisme, ni dans le platonisme d'ailleurs. Donc ces trois éléments, qui sont des éléments historiques, Dieu a créé le monde, Dieu s'est incarné dans le monde, les âmes sont incarnées dans leur corps, elles et les corps ressusciteront, c'est des événements historiques. Ça ne correspond pas du tout au schéma qui est un peu atemporel de la sagesse grecque. Et ces événements historiques, et donc la révélation elle-même, ça caractérise effectivement l'humanisme chrétien qui est lié à une histoire et non pas à une sorte d'éternité du monde et de la nature de l'âme. L'âme a une histoire, quelque part le péché, c'est un événement historique.
Bien sûr.
Donc tous ces éléments-là, on va dire ces éléments narratifs, mais pas de manière critique, ce sont des éléments qu'on ne pourra pas du tout trouver dans la théologie platonicienne et néoplatonicienne, alors qu'on trouvera le thème de la Trinité, on trouvera le thème de la perfection, on trouvera le thème de la cité de Dieu, etc. Donc on aura plein d'éléments qu'on va retrouver chez saint Augustin, etc., qui vont être dans le christianisme repris, mais dans un cadre différent, avec cette idée fondamentale de l'incarnation, qui est quand même le cœur de l'ensemble du sujet. Car dans l'incarnation, ce qu'on nous dit, c'est que seul Jésus-Christ est l'homme divin. Et seule la grâce peut rendre l'individu humain divin.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec René Sève et nous évoquons le modèle chrétien après avoir évoqué dans une autre émission d'autres modèles. Alors, René Sève, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, nous étions partis du don de la grâce et reprendre à partir de ce don de la grâce qui est tellement important.
Merci beaucoup. Tout à fait. C'est l'élément absolument fondamental qui constitue la rupture entre le monde grec et le monde chrétien, comme on vient d'essayer de le montrer. Ça aboutit à dire que l'individu, par lui-même, est dédivinisé. Donc, il y a quelque part le ferment d'une vision déjà laïque, puisqu'on considère l'individu, contrairement à ce que pensaient les Grecs, comme étant purement naturel. Il y a une sorte de vision plus naturaliste sur lequel Machiavel construira un peu son œuvre.
Mais alors ça, c'est une troisième émission ensuite, que nous
absolument.
Ferons après.
Oui. Et il y a, contraire, naturellement, une dédivinisation de la nature. Après, en termes pratiques, cette dédivinisation de la nature et ce besoin de la grâce apporté par le Christ va poser, on le sait bien, chez les premiers chrétiens, des problèmes, si j'ose dire, de réglage.
Réglage, le terme, ne plaît pas tellement, d'ailleurs.
De réglages sociaux. On le voit bien avec ce qu'on voit dans les épîtres de Paul, on pourrait le développer naturellement bien davantage, avec l'idée d'un risque d'anomisme, d'absence de règles, ou d'antinomisme, d'opposition à toute règle. Parce que, selon la formule bien connue, omnia pura puris, tout est pur pour les purs, une vision un peu enthousiaste, au sens strict, c'est aussi un terme qu'on trouve dans les épîtres de Paul, une vision un peu enthousiaste du message christique, de l'amour, de la pureté de l'âme, aboutit à des dérèglements sociaux, puisque tout est permis si l'on le fait par amour. Donc il y a une sorte...
Oui, mais alors là, peut-être que vous étendez le terme amour.
Ah, la question, c'est l'intention...
Oui, c'est ça, faudrait définir, en fait.
Et on peut le dire de manière pratique et de manière dogmatique. De manière pratique, c'est effectivement des mœurs qui ont été parfois un peu agitées, on appelle ça comme ça, que Saint Paul, naturellement, a remis dans le droit chemin. Mais il y avait cette idée qu'on retrouvera aussi dans d'autres sectes chrétiennes que l'amour peut être tout à fait libre du moment si.
Mais ça, ce sont des sectes, c'est autre chose.
Mais justement, au début, il a fallu quand même lutter contre des sectes. Enfin, l'histoire de l'Église est marquée quand même par des luttes contre des sectes. Sur le plan pratique et sur le plan dogmatique, c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. C'est-à-dire que les premiers chrétiens pouvaient avoir des transes. Alors, il y a des critères, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement intéressant la manière dont on a stabilisé, à la fois de manière pratique, politique et dogmatique, le message chrétien qui pouvait être vu de manière un peu irrationnelle, délirante, trop individualiste, purement éclaté en fonction des aspirations de chacun, ce qui naturellement rendait la création d'une communauté très difficile. Le second point qui pouvait être un sujet à régler, si j'ose dire, ou à normer, comme on voudra le terme, c'était effectivement comment s'adapter aux exigences du monde. Et donc, naturellement, il y avait toute une réflexion sur le thème, est-ce qu'il faut accepter le mariage ou, au contraire, il faut accepter le célibat. Il y a plus de pureté dans le célibat que dans le mariage. Est-ce que la propriété privée est légitime? Ou bien est-ce que tout est commun? C'est la communauté des biens. Donc ça peut aussi se penser comme étant finalement la conséquence directe en termes matériels du message chrétien. C'est aussi le fait de porter des armes. L'idée, naturellement, du service militaire.
Du soldat.
Voilà, du soldat chrétien n'est pas une idée naturelle. À un moment, on a dit que les chrétiens ne combattaient pas, mais devaient prier pour ceux qui combattaient. Donc, ce qui, naturellement, a, chez les Romains, entraîné un certain nombre de remarques ironiques. Donc, cette question de la légitime défense. Il n'y a pas un accord absolu entre saint Augustin et saint Thomas d'Aquin sur la légitime défense. Vous êtes agressé par un fou avec un poignard, ou bien quelqu'un qui vous vaut la bourse ou la vie. La légitime défense, est-ce que c'est permis à un chrétien ou non? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là? Si on regarde les textes de saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, ça dit un peu la même chose, mais pas exactement pour les mêmes raisons.
Oui, c'est ça.
Et même pas tout à fait la même chose non plus. Bon. Donc la question, comment on atteint la perfection ?
On a l'impression que parfois c'est un problème de terminologie, non ?
C'est un problème après de casuistique aussi.
Oui, voilà.
C'est un problème aussi de l'individu. Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de perfection dans l'idée de refuser de faire le mal, surtout, par exemple, à celui qui est pris de folie et pas celui qui est cupide et qui vous attaque pour vous prendre votre argent. On pourrait faire des distinctions là-dessus et retirer la vie à autrui. À quel niveau, finalement, on peut le faire, sachant qu'il y a de la casuistique au sens où si on est soldat, si on est policier, on se pose pas la même question que si on est une personne privée. Donc la casuistique de la légitime défense est un sujet tout à fait sérieux et légitime. Et il a fallu donc stabiliser pour aboutir à dire, plutôt sur la thèse Thomiste, que la légitime défense était légitime, dans un esprit de proportion, naturellement. Donc finalement, il y a une sorte d'équilibre qui s'est trouvé. Mais toutes ces questions-là, propriété, violence, mariage, se sont posées naturellement aux premiers chrétiens.
Et ont été résolues aussi.
Et ont été résolues aussi par la distinction entre les laïcs
prêtres,
et les clercs. On
ne
va pas revenir sur le mariage des prêtres. Mais quelque part, la transposition... Enfin, ce qu'on pourrait penser être l'idéal chrétien, toute chose égale par ailleurs, mais ça serait long à expliquer, c'est le monachisme. Parce que dans le monachisme, effectivement, là, vous pouvez créer une communauté parfaite. Mm-hmm. Vous avez réglé le problème de la violence, de la légitime défense,
du mariage,
de la propriété. Et donc, là, vous avez quelque part l'idéal chrétien, la cité de Dieu sur terre. Dans cette première inspiration, c'est le monachisme. Un monachisme qui peut être collectif ou individuel, c'est naturellement le repli dans le désert. Bon. Mais là, c'est quand même un peu l'illustration de ce que faisaient naturellement les communautés de sages grecs, qui pratiquaient effectivement une vie en communauté un peu séparée de la cité. Et c'est ça qui est intéressant, il y a un message chrétien qui est radicalement différent, seul le Christ est l'homme divin, mais en même temps, en termes pratico-pratiques, besoin de revenir à des formes d'organisation et des formes de méthodes de vie, l'ascèse, la prière, la contemplation, la gestion de son temps, le rapport à soi-même, qui ressemble beaucoup à ce que pratiquaient les sectes philosophiques, que ce soit platoniciennes, épicuriennes, stoïciennes. Il y avait une rivalité entre les sectes pour celles qui appartenaient le secte au sens tout à fait normal du terme, pas péjoratif, pour celles qui permettaient le plus aux individus d'atteindre la sagesse et donc la divinité. Bon, naturellement, on ne peut pas le faire sans Dieu pour les chrétiens, mais on va retrouver en pratico-pratique, en apparence, parce qu'on va dire que c'est très différent, une communauté monastique et une communauté de sages grecs.
En apparence,
bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut dire, vu de l'extérieur, c'est des communautés un peu séparées qui vont réussir à atteindre un certain idéal de vie.
L'idéal est différent.
Voilà. Et un idéal différent de vie, mais effectivement qui suppose une vie en communauté avec des règles qui ne sont pas celles qui sont suivies dans la vie laïque ou la vie ordinaire. La vie laïque qui est celle, chez Platon, des commerçants et des soldats de la première et de la seconde classe qu'on évoquait dans la République dans l'émission précédente. Donc il y a cette transposition, mais cette transmutation, on va appeler ça comme ça, d'un point de vue chrétien, d'un certain nombre de problèmes qu'avait rencontré la philosophie grecque et la sagesse individuelle grecque, et qui aboutit à cette nouvel humanisme, enfin un humanisme où on est finalement proprement humain que grâce au Christ, grâce à la grâce. C'est ça le sujet fondamental.
C'est ça, c'est la grâce.
Alors le problème qu'on va rencontrer naturellement dans ces questions-là, on l'a évoqué quand on parlait du service militaire, quand on parlait du fait pour le chrétien de porter des armes, c'est le rapport entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Ça va traverser la théologie des premiers siècles, ça va traverser toute la période de l'humanisme chrétien, avec un certain nombre de problématiques qui vont être résolues de façon plus ou moins violente. Entre le premier sac de Rome en 410 et le sac de Rome par Charles Quint en 1527, on pourrait passer toute l'histoire de l'Occident sur la grille de cette mesure-là, entre le rapport entre pouvoir civil et pouvoir temporel, le pape et l'empereur. Les questions qui se posent,
nombreuses guerres aussi.
Et les
il y a eu des troubles quand même.
Ah oui, bien sûr, les troubles militaires bien en Italie. Sûr. L'Italie est traversée par le combat entre le partisan de l'empereur et les partisans du pape, toute sa période.
C'était pas paisible.
Ah non, pas du tout, pas du tout paisible. Et la question qui se posait, c'est bien connu dans tous les manuels d'histoire, c'est qui va nommer les évêques, qui va leur accorder un pouvoir temporel, le pouvoir civil doit-il aider à combattre l'hérésie, ça c'est un sujet qu'a rencontré Saint-Augustin dès le départ, un chrétien peut-il obéir à un prince infidèle, que se passe-t-il si un prince infidèle remplace un prince légitime, toute une série d'articulations entre le pouvoir civil et le pouvoir politique, naturellement, qui pose un problème de stabilité sociale et un problème aussi de doctrine. Hein. Ce n'est pas uniquement de la stabilité sociale. Le problème de stabilité sociale découle d'un vrai problème de doctrine. La nomination des évêques, la fameuse querelle des investitures, le pouvoir temporel des évêques, l'organisation judiciaire, toutes ces questions-là sont des questions de friction qui vont traverser la période entre les deux sacs, au sens pillage, de Rome que j'ai évoqué un instant. Et c'est la suite de l'histoire de l'humanisme occidental qui pourrait être vue à partir de cette difficulté, qui considère que l'équilibre qui était censé, l'articulation entre le civil, le temporel et le spirituel n'a pas été trouvé dans l'organisation antérieure, et ça aboutit à deux versions. Une version machiavélienne, qui consiste à dire « laissons ces questions spirituelles, théologiques, de sagesse absolue, donc de la classe supérieure de Platon, de côté, réduisons les sujets, ceux des deux premières classes, la classe du commerce, de l'argent et la classe militaire, ayons une vision proprement politique ». Et donc, on voit bien que toute cette théologie, en quelque sorte, et toute cette théologie rationnelle des philosophes, cette théologie spirituelle des religieux, ça ne permet pas de construire un ordre social. Donc, revenons à une vision réaliste. Revenons à Thucydide, Il n'y a pas Thucydide, il ne fait pas des considérations sur la sagesse, la vision de Dieu. Thucydide, c'est les rapports de force. Revenons à Thucydide. Même si c'est pas l'auteur que cite le plus Machiavel. Et puis, ceux qui disent, non, le message chrétien, il est fondamental, mais il faut absolument le déséclésialiser. C'est donc tout le mouvement des protestants. On pourrait dire aussi des catholiques quand ils sont minoritaires dans un monde où il y a beaucoup de protestants, comme en Angleterre. Mais donc, c'est de dire... abandonnons finalement cette vision d'un pouvoir politique qui est trop hypostasié, qui s'oppose au pouvoir spirituel. C'est l'individu qui lui-même est porteur de la grâce. C'est lui qui doit avoir les droits. L'ordre politique doit en découler. Et donc, de ce point de vue-là, reconstruisons, sans hypostasier la classe militaire de Machiavel, reconstruisons un ordre avec un individu qui a la transcendance, qui a sa liberté de religion, d'organiser sa religion, et puis, naturellement, ses besoins matériels, le commerce, les échanges, l'organisation de la propriété. Mais il faut le faire à partir de la racine quand même transcendante de chaque individu, donc ce qu'on appelle la naissance des droits de l'homme dans les mouvements de la pensée et de la politique des 16e, 17e et 18e siècles.
Je vois que vous annoncez déjà la prochaine émission. Un grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel et aussi que vous pourrez écouter une troisième émission de René Sève. Merci à vous, René Sève.
Merci.